Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. La presse. Au programme, nos grandes peurs. Et quand la positivité devient toxique. Bonne écoute.
Nos grandes peurs, un texte de Laila Maalouf et Véronique Larocque, paru le 28 mai 2023 dans la presse. La fin du monde, les virus, le nucléaire, les catastrophes environnementales, les extraterrestres. Si nous n'avons pas tous les mêmes peurs, certaines d'entre elles ont tendance à être plus répandues que d'autres. Mais qu'est-ce qui conditionne les grandes peurs sociétales? La peur fait partie des émotions humaines fondamentales. À la base, son rôle est de nous protéger contre les dangers. C'est une alarme qui sonne face aux menaces, explique le docteur Camillo Zacchia, psychologue et vice-président de l'organisme Phobie Zéro. Mais on est tous différents, nuance-t-il. Et certaines personnes ont des alarmes plus fortes que d'autres, notamment face à ce qu'on qualifie de grandes peurs sociétales. Si on regarde les grandes peurs sociétales qui concernent la survie de l'espèce humaine, ce qu'on appelle les fins du monde dans l'Académie du catastrophisme, d'habitude, c'est le nucléaire, la pandémie, le religieux, donc une fin du monde qui serait un acte de Dieu, et l'environnement, précise le professeur de sociologie et d'anthropologie à l'Université Concordia, Jean-Philippe Warren. Depuis le Moyen Âge, les grandes peurs évoluent par cycle, explique-t-il. Avec les avancées scientifiques du 19e siècle, des peurs liées à d'importantes catastrophes géologiques découlant de la théorie du catastrophisme sont venus s'ajouter aux peurs véhiculées principalement jusqu'alors par la religion. Et si les cycles des grandes peurs pouvaient s'étirer sur des siècles à l'époque médiévale, ils ont désormais des durées de vie plus courtes qui coïncident avec de grands événements comme la crise de Cuba en 1962 qui marque le point culminant de la peur nucléaire jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. Les peurs changent, si tu es jeune, vieux, de gauche, de droite. Les gens de droite, par exemple, ont plus peur d'une fin du monde qui serait une espèce de parousie divine. Et de l'autre côté, les gens de gauche ont plus peur d'une catastrophe environnementale, selon Jean-Philippe Warren, professeur de sociologie et d'anthropologie à l'Université Concordia. Aux États-Unis, ajoute-t-il, 2% des gens pensent que la fin du monde va venir des zombies et 1% des extraterrestres. Et si jamais il y avait des signes mystérieux dans le ciel, je suis sûr que ce 1% grossirait. Les grandes peurs seraient ainsi majoritairement conditionnées par les événements, notamment géopolitiques ou liés à l'actualité, mais également sujettes aux progrès technologiques et au contexte dans lequel on vit. Depuis la pandémie, les sondages montrent qu'environ une personne sur cinq pense que la fin du monde sera causée par un virus, alors qu'elle ne faisait pas partie des peurs il y a une dizaine d'années, avance le professeur. Si on était dans un contexte de guerre comme en Ukraine, nos peurs seraient probablement bien différentes. On ne s'inquiéterait pas trop de l'environnement, souligne de son côté Léonie Lemire-Théberge, psychologue et professeur. J'enseigne au cégep et l'intelligence artificielle, ça nous fait peur. On voit des travaux, on fait des tests nous-mêmes, chat, GPT, ça peut faire la job des étudiants, dit-elle. La peur, vecteur de changement, face à tout ce qui se passe autour de nous, c'est donc notre perception qui va faire en sorte que la peur réussit à avoir une emprise sur nous, perception influencée par notre tempérament, notre génétique, notre éducation. Si j'ai un tempérament anxieux, que j'ai tendance à voir le pire et qu'il y a des fusillades, je vais probablement me mettre à craindre plus quand mes enfants sortent dehors, illustre Léonie Lemire-Théberge. Chez les gens qui avaient déjà peur des maladies, avec la COVID, cette peur est vraiment venue prendre toute la place. La peur, cependant, peut quelquefois devenir un vecteur de changement. C'est ainsi que des groupes ou des gouvernements ont cherché à sensibiliser les populations par rapport à l'environnement en créant une peur face à cet enjeu pour les pousser à agir et changer certaines habitudes qui seraient nocives pour l'environnement, explique Camille Ozakia, psychologue et vice-président de Phobie Zéro. Il y a certaines peurs qu'on utilise parce qu'on veut faire bouger les populations. Par exemple, pour conscientiser les gens au danger de la cigarette, qu'est-ce qu'on fait? On met des avertissements pour augmenter la peur. Si on veut affecter le bien-être de la planète, on doit sensibiliser les gens. La planète est en train de mourir, nous dit le docteur Camille Ozakia. La peur est d'ailleurs souvent utilisée comme une arme dans les gouvernements totalitaires, dans le but de solidariser la population face à un ennemi commun, réel ou non, tout en s'assurant de sa cohésion et de sa fidélité, note Jean-Philippe Warren. Vous écoutez « Nos grandes peurs », un texte de Laila Mahalouf et Véronique Larocque, paru le 28 mai 2023 dans la presse. Parfois, quand on veut mobiliser les gens, que ce soit pour l'environnement ou l'importance de se protéger contre la COVID, on va mettre plus d'importance là-dessus. Mais tout le monde ne va pas recevoir le même message. Des gens vont dire « Ce n'est pas réel, c'est une conspiration. » À l'opposé, on a créé des gens hyper anxieux. Certains deviennent paralysés par ça, sont très inquiets, découragés. J'en connais qui disent « Moi, je ne vais pas avoir d'enfants parce que la planète est en train de se défaire. » Donc, ça pourrait être quand même assez intense chez certains individus, estime le docteur Zakia. Ce qui est intéressant, ajoute-t-il, c'est que pour essayer de faire bouger certaines personnes, on doit envoyer des messages de catastrophe. La COVID a fait sortir beaucoup d'éléments intéressants dans la nature humaine. Comment on appréhende un danger? Comment on le comprend? Il y a des gens qui voyaient ça comme extrêmement menaçant. D'autres qui minimisaient le danger. Eux, ils n'ont rien changé dans leur vie. Six choses qui ont fait frémir l'Occident. De quoi avait-on peur il y a 20 ans, 50 ans, voire 100 ans? Menace réelle ou fruit de l'imaginaire? Ces six choses ont suscité l'angoisse en Occident dans les dernières décennies et elles vous font peut-être encore peur aujourd'hui. Panique satanique. Qu'ont en commun les jeux de rôle et le heavy metal? Dans les années 1980, ils ont été associés au satanisme. À l'époque, des gens étaient convaincus qu'à peu près dans toutes les banlieues américaines, il y avait des congrégations sataniques qui se réunissaient et qui faisaient des sacrifices humains, indique Antonio Dominguez Leiva, professeur de l'UQAM, spécialisé en histoire culturelle. Selon lui, le succès qu'a connu le film Rosemary's Baby de Roman Polanski, paru en 1968, a certainement contribué à raviver cette peur du diable. Aux États-Unis, des éducateurs en garderie soupçonnés de faire partie de groupes satanistes ont été accusés d'attouchements sexuels sur des enfants. Francis Langlois, professeur d'histoire au Cégep de Trois-Rivières, dresse un parallèle entre la méfiance envers ces hommes et celle dont on fait l'objet les drag queens dans la dernière année. Ça s'inscrit dans le même genre de tendance. On démonise des catégories de personnes. Et ça vient d'où? D'une forme de fondamentalisme chrétien puritain. Extraterrestre. L'idée qu'il existe une autre forme de vie dans l'univers n'a pas toujours été qualifiée de terrifiante. Les extraterrestres sont devenus inquiétants quand il a été question d'enlèvement dans les années 1980, indique Antonio Dominguez Leiva. Des gens ont témoigné avoir été transportés à bord de vaisseaux pour subir des expériences médicales. Ils sont réellement convaincus qu'ils ont été en contact avec ces créatures, poursuit-il. Au début de l'année, le Pentagone a déposé un rapport sur les phénomènes aériens non identifiés, ce qui a continué d'alimenter le débat sur l'existence ou non des extraterrestres. Armes nucléaires. Les images des villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki, complètement rasées par l'explosion de deux bombes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale, ont marqué les esprits. Tout au long de la période de la guerre froide qui a suivi, la menace nucléaire effraie la planète entière. On avait vraiment peur qu'à tout moment, l'URSS ou les États-Unis décident d'attaquer avec une bombe nucléaire et que l'autre riposte. C'était la peur de la fin du monde, rappelle l'historienne et enseignante à la Villa Sainte-Marceline, Sophie Doucet. La guerre en Ukraine et la hausse des tensions entre la Russie et les États-Unis ont fait renaître cette peur. Pourtant, la menace nucléaire n'était jamais disparue, souligne Francis Langlois. Personne n'est totalement conscient qu'il y a encore beaucoup d'armes nucléaires et qu'elles sont nettement plus puissantes que celles utilisées à Hiroshima et Nagasaki. Clown maléfique. Ils sont censés provoquer la joie et le rire, mais en 2016, ils ont semé la panique aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, notamment. Tout à coup, il y avait des gens qui se sont mis à voir des clowns inquiétants dans leur jardin, dans le bois ou sur la route, raconte Antonio Dominguez Leiva, auteur d'un livre abordant cette grande peur clownesque. Parfois filmés, ces incidents ont fait l'objet de reportages dans les médias, comme ce fut aussi le cas dans les années 1980 et 1990. Les nombreux films d'horreur mettant en scène des clowns maléfiques, dont Halloween de John Carpenter, puis It de Stephen King, ont contribué à nourrir cette crainte. Mais au-delà de la fiction, un personnage bien réel a également alimenté cette peur des clowns, John Wayne Gacy, tueur en série américain qui a enlevé la vie à au moins 33 jeunes hommes dans les années 1970. Il a été surnommé par la presse le clown tueur, puisqu'il se déguisait ainsi pour faire du bénévolat dans les hôpitaux. Terrorisme. Les attentats du 11 septembre 2001 ont totalement changé la peur du terrorisme aux États-Unis, bien entendu, mais aussi ailleurs dans le monde. Si avant 2001, on l'associait à une menace interne, comme ce fut le cas en 1995, lorsqu'un groupe d'extrême droite a fait exploser un bâtiment fédéral à Oklahoma City, l'effondrement des tours jumelles a modifié cette vision. Avec le 11 septembre, le terrorisme, c'est devenu la peur de l'islamisme. On a ethnicisé le terrorisme, note Francis Langlois, membre associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. La peur que ça se reproduise a rendu beaucoup de gens méfiants par rapport à une catégorie de la population qu'on associait à ces événements-là. La peur alimente le racisme, l'intolérance, ajoute l'historienne Sophie Doucet. Encore aujourd'hui, on ressent les effets de cette peur de l'autre, pensent les deux experts. Virus. Absente des pensées de nombreux Québécois il y a 4 ans à peine, la peur des virus est revenue en force en 2020, merci à une certaine maladie nommée COVID-19. Or, la crainte des pandémies s'observe par vagues depuis la fin du 19e siècle, avance Antonio Dominguez Leiva. À cette époque, il y avait une paranoïa autour de la découverte des microbes et de la médecine microbienne. La crainte que des groupes anarchistes utilisent des virus contre une portion de la population était réelle au tournant du 20e siècle. Cette peur du bioterrorisme est également réapparue pendant les guerres mondiales, la guerre froide et même tout récemment. Ça demeure l'hypothèse de beaucoup de gens sur l'origine de la COVID-19, souligne le professeur de l'UQAM. C'était « Nos grandes peurs », un texte de Laila Malouf et Véronique Larocque, paru le 28 mai 2023 dans la presse.
Quand la positivité devient toxique, un texte de Leila Malouf paru le 4 juin 2023 dans la presse. Oui, la positivité a ses limites, et elle peut carrément devenir toxique. Parce qu'il arrive qu'on ait juste envie de grincer des dents lorsqu'on nous sert le fameux « ça va bien aller » ou qu'on nous ressort le classique « ça pourrait être pire ». Des expertes nous expliquent comment éviter de tomber dans le piège de la positivité toxique. Quand elle a partagé sa première publication sur la positivité toxique sur son compte Instagram en 2019, la psychothérapeute américaine Whitney Goodman était loin de se douter que celle-ci deviendrait virale, et encore moins qu'elle finirait par écrire un livre sur le sujet qui ferait mouche au point d'être traduit dans une vingtaine de langues dans le monde. Publié plus tôt ce printemps au Québec aux éditions de l'Homme, l'ouvrage « Positivité toxique, se libérer de la dictature du bonheur pour aller vraiment mieux » est né alors que les conseils du genre « tenez un journal de gratitude, écrivez 10 pensées positives » ou encore « collez des post-it de pensées positives partout dans la maison » explosaient parmi son cercle de thérapeutes. « Je me hérissais toujours face à ce genre de pratique », dit Whitney Goodman, jointe par visioconférence chez elle, en Floride. « J'avais juste ce sentiment de « Oh mon Dieu, je déteste ça !» En même temps, des patients désemparés venaient la consulter en lui disant « Je ne devrais pas m'en faire avec ça, je dois juste penser de façon positive, j'ai tellement de raisons d'être reconnaissant. » Quelques-uns d'entre eux se sentaient même honteux d'éprouver des sentiments considérés comme négatifs. Il y a des moments où être positif peut être très bénéfique, mais il y a aussi des moments où être positif ou trop positif peut être nuisible, renchérit Alexandre Lamoureux, doctorante en psychologie clinique à l'Université de Moncton. Celle qui est également interne au Centre Mieux-être Mind at Peace au Nouveau-Brunswick a commencé à s'intéresser de près à ce sujet relativement nouveau, mais très en vogue depuis la pandémie, à son avis. Parfois, on tente à vouloir se confier, puis on fait face à des réactions comme « c'est pas si grave, ça va passer, il faut regarder le côté positif des choses ». L'effet que ça avait sur moi, personnellement, n'était pas vraiment aidant. Mon émotion voulait quand même sortir. Ça isole plus qu'autre chose, avance Alexandre Lamoureux. Être positif au bon moment. Mais alors, à partir de quand la positivité cesse-t-elle d'être saine pour devenir toxique? Il faut toujours évaluer le moment, votre public et votre objectif dans la situation en question, estime Whitney Goodman. Quand quelqu'un se trouve dans un moment de détresse, la meilleure chose à faire est de lui demander « Quelle serait la chose la plus utile que je pourrais faire pour toi en ce moment? As-tu besoin d'être motivé? Veux-tu juste que je m'assoie avec toi? » Si la personne pleure, et si elle est manifestement contrariée par quelque chose, ce n'est pas le moment d'être positif. Attendez qu'elle sorte un peu de cet espace, propose Whitney Goodman. Selon la psychothérapeute, 9 fois sur 10, les gens veulent juste qu'on soit là avec eux, qu'on leur montre qu'on n'a pas peur de leur douleur et qu'on sera une ancre pour eux dans cette situation. Si l'on prend, en revanche, le contexte de la pandémie ou tout autre grand moment d'adversité, quand on sait qu'on baigne dans un environnement sur lequel on n'a pas le contrôle pour une période indéfinie ou indéterminée, précise Alexandre Lamoureux, adopter une attitude positive permet de trouver une lumière à laquelle se rattacher. On appelle ça l'optimisme tragique. C'est un terme qui avait été inventé par Viktor Frankl, un survivant d'un camp de concentration nazi, note la doctorante. Mais la positivité devient toxique lorsqu'on surgénéralise cette attitude à tel point qu'elle vient diminuer l'importance d'une expérience qui est difficile à vivre, explique-t-elle. Un bon exemple est celui d'une personne qui vient d'apprendre qu'elle a une maladie chronique. Elle est présentement sous choc, elle vit beaucoup d'émotions, peut-être de la colère, un très grand découragement. Donc, quand la personne est encore dans cette émotion-là, on doit lui laisser le temps de la vivre pour ne pas minimiser ou réprimer tous les sentiments qu'elle peut avoir par rapport à cette nouvelle, dit Alexandre Lamoureux. Toutes ces phrases qu'on entend parfois ou qu'on dit peut-être aussi soi-même, « ce n'est pas si grave » ou « ça ira mieux demain », elles ont un effet nuisible du côté de la personne qui les reçoit. L'empathie, l'écoute active et la validation des sentiments deviennent alors la clé, à son avis. Et parfois, souligne Alexandre Lamoureux, on a juste besoin de pleurer sur l'épaule de quelqu'un. Pleurer, c'est un excellent moyen d'exprimer ses émotions. C'est vraiment très libérateur en soi. Adopter la bonne attitude. Que faire pour éviter d'être exposé à de la positivité toxique et surtout se garder d'en répandre? Exemples et conseils. Dans un contexte professionnel. J'ai un patron qui est trop positif et je n'aime pas la façon dont il cherche à me motiver, illustre Whitney Goodman, psychothérapeute et autrice du livre « Positivité toxique, se libérer de la dictature du bonheur pour aller vraiment mieux ». Sur quoi est-ce que je peux agir dans cette situation? Cherchez des soupapes de ventilation, d'autres personnes qui vous permettront d'exprimer et de vivre vos émotions dans un espace où vous vous sentez validé et compris, conseille la psychothérapeute. Il sera ainsi plus facile, selon elle, de tolérer ce type de personnes à petite dose. Mais si l'on n'arrive tout simplement pas à travailler dans un tel environnement, ajoute Mme Goodman, il faudra alors évaluer le rapport avantage-coût afin de déterminer si la situation est viable à long terme ou s'il vaudrait mieux chercher un nouveau milieu de travail. Quand on est parent, vous entendez souvent des parents dire que tout ce qu'ils veulent, c'est que leur enfant soit heureux et en santé, ajoute Whitney Goodman. Souvent même avant la naissance. Je recommande toujours qu'on ne fasse pas du bonheur le but ultime de l'enfance, dit Whitney Goodman. À son avis, les parents doivent laisser les enfants expérimenter toutes sortes de situations pour qu'ils deviennent des adultes bien adaptés et ne pas chercher à escamoter celles qui seraient potentiellement négatives. Même avec de très jeunes enfants, insiste la psychothérapeute. Il faut leur permettre de vivre des sentiments de déception, de colère, de bouleversement de manière sécuritaire, tout en validant leurs émotions. Même si ça nous semble ridicule qu'ils s'en fassent pour une tasse, par exemple, il vaut mieux leur dire « Je comprends, tu voulais la tasse bleue, tu as eu la tasse rouge », et être avec eux, plutôt que de chercher la fameuse tasse bleue à tout prix afin d'éviter qu'ils soient contrariés. Avec tout être cher. De façon générale, c'est très difficile d'être témoin de la souffrance humaine, souligne Alexandre Lamoureux, doctorante en psychologie clinique à l'Université de Moncton. Encore plus quand ce sont nos enfants ou des personnes pour lesquelles on a un grand attachement émotionnel. Le réflexe, à son avis, sera de bondir pour dire à ce proche que ça va être correct. C'est ce qu'on voit dans le cas de parents qui essaient de surprotéger leurs enfants ou qui essaient d'écarter des émotions déplaisantes ou de grands défis, précise-t-elle. Selon elle, il suffit parfois d'un geste, d'un contact visuel ou d'une simple présence compatissante. Puis tranquillement, après ça, on peut essayer de voir ce qu'on peut faire, de quoi la personne a besoin. C'était « Quand la positivité devient toxique », un texte de Leïla Malouf paru le 4 juin 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et André Lebeau à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.